Hey, quoi, Robert?
Ah, bonjour, Alexis.
Aujourd'hui, Robert, on a une émission littéraire.
Ben, enfin!
Un auteur comme toi, ça doit être une des plus belles émissions.
Ah, de ce temps-là, il est meilleur que moi. Il y a des succès magnifiques. Michel Jean, bonjour.
Oui, bonjour.
Quoi, Monsieur Jean?
C'est formidable, oui, tous les prix, Michel Jean, que vous gagnez. C'est formidable pour vous comme écrivain, tant mieux, et toutes nos félicitations. Mais en plus, c'est que ça crée un lectorat de gens sur les causes et les sujets autochtones de façon extraordinaire pour la cause.
Oui, puis ça montre aussi que les histoires qu'on retrouve dans des romans autochtones sont des histoires universelles.
Et exactement.
Ça peut rejoindre des gens, peu importe qui ils sont, peu importe leur origine, peu importe le pays.
Le roman s'appelle Tio Tiake, c'est bien ça que ça se prononce comme ça, ou à peu près?
En fait, on remplace le T par un J, fait que ça fait Joe Jagi. Ça veut dire Montréal en langue Mohawk.
Bon. Écoutez, on va commencer tout de suite. Ce héros, Élie, se retrouve en ville, se retrouve itinérant. Rapidement, on va aller dans des détails différents par rapport à votre écriture et votre démarche après ça, mais pourquoi il se retrouve itinérant à Montréal, en gros, là?
Ben, il fait de la prison. Il est banni de sa communauté. Il ne peut pas retourner dans sa communauté. Donc, il va se retrouver, lui, à aller, il ne sait pas où aller. Donc, comme beaucoup, il va se retrouver à Montréal. Il va échouer à Montréal. Et quand il arrive à Montréal, ben, il n'y a pas de ressources, il n'y a rien, il ne connaît personne, il est désemparé. Il faut savoir que les Autochtones, ils vivent pas dans des villages, ils vivent dans des communautés. Et quand on est expulsé de sa communauté, on peut être désemparé. Et quand il va se retrouver à Montréal, il va être dans la rue, mais il va avoir un filet de sécurité, de solidarité qui va se créer autour de lui et qui va l'aider graduellement à se reconstruire.
Pourquoi il a été chassé de sa communauté? Il a fait son temps de prison, il a payé sa peine, mais il n'est pas pardonné, excusé dans la communauté?
Ben, la justice autochtone est différente. Et souvent, les gens, d'ailleurs, c'est un des éléments dont je voulais parler dans le roman, c'est que souvent, les gens rigole un peu, tu sais, ça me moque la justice autochtone en disant, tu sais, bannir quelqu'un, c'est pas une grosse peine, c'est pas de la prison, etc. Les gens, ils ont juste plus le droit de rentrer chez eux. Mais comme je disais, les gens dans les communautés, ils sont tellement, c'est la vie en communauté, c'est quelque chose de différent auquel les gens, ils sont immergés dans ça. D'en être expulsé, c'est très dur au plan humain. Donc, Élie se retrouve, lui, incapable de retourner chez lui. Mmh. Et c'est pour ça qu'il va se retrouver à Montréal.
Si on se ramène un peu dans le passé, un bannissement de la communauté, ça pouvait quasiment vouloir dire une peine de mort parce qu'on a besoin de la communauté pour vivre. Aujourd'hui, c'est un peu comme une mort sociale.
Exactement. C'est exactement ça. Et c'est aussi une peine, dans le cas de Élie Michtonapeo, dans le roman, une peine plus sévère que les 10 ans de prison qu'il va faire. Parce que la peine, elle se poursuit même quand il est sorti de prison. Il a payé sa justice aux yeux des Blancs, mais pour sa communauté, il n'a pas fini de payer. Et c'est l'expression une mort sociale est très juste aussi parce qu'il est coupé de tout ce qui était son réseau social auparavant.
Comme auteur, vous vous êtes donné, Michel, un défi magnifique. Vous dites, vous avez voulu mettre le lecteur dans les mocassins du personnage. C'est drôlement réussi, je trouve.
Merci. Ben, je sais, moi, quand j'écris j'essaie que le lecteur ressente ce que les personnages vivent. Je trouve que de cette façon-là, quand on plonge dans un roman et puis qu'on peut vivre des expériences, on peut voyager à travers ces personnages-là et vraiment vivre ce qu'ils vivent-là. Et pour quelqu'un qui, comme moi, essaie à travers ses romans de faire voir une autre réalité pour que les gens aient une perspective peut-être plus large des choses, dans ce cas-ci, la vision des Autochtones, c'est un outil. Moi, je voulais raconter dans Joe Jagi, en réalité, c'est quoi les conséquences des pensions autochtones. Dans mon roman, comme on voyait les enfants enlevés, puis on voyait la cassure, puis on voyait aussi ce que ça représentait pour les communautés quand les pensionnats sont arrivés. Mais ça a continué, hein, les gens sont allés, ça a duré pendant des années, puis les pensionnats sont revenus, puis ils ont eu des enfants. Puis quand on parle aujourd'hui de blessure intergénérationnelle, je déteste ces mots-là parce que ça veut rien dire, mais ce que ça ça indique, c'est que les gens qui ont connu le pensionnat ont des enfants, puis eux-mêmes étant brisés, ça a des conséquences sur la façon dont ils élèvent leurs enfants. Et ces enfants-là, plus tard, eux-mêmes ont une blessure qui est la conséquence directe de l'éducation de leurs parents. Alors, je voulais raconter ça dans le roman. Puis, une bonne manière de le faire, c'est vraiment de mettre le lecteur et la lectrice dans l'évocation d'une personne qui le vit vraiment. Et en suivant les méchants APO, on suit son histoire.
Mais pour mettre le lecteur dans les mocassins du personnage, il y a plusieurs façons de le faire. Vous auriez pu le faire avec, d'une façon littéraire un peu classique, avec des grandes tartines de description et de contenu psychologique. Mais le fait d'avoir travaillé en phrases rythmées, assez courtes d'ailleurs, et de très courts chapitres, ça me semble tout à fait correspondre un peu, j'ose penser ça comme blanc, là, à un esprit autochtone qui voyage.
Mais je pense qu'il y a une manière d'écrire qui est une manière d'écrire Innu aussi, soit j'écris simplement, puis tu sais, si on lit Josephine Bacon, c'est ça aussi, Naomi Fontaine aussi, mais ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que entre la première version et la dernière version, il y a beaucoup de textes qui ont été enlevés, simplifiés, modifiés. Ça demande une certaine un certain travail, en tout cas pour mooi, mais j'essaie pas de pas faire de longues descriptions. Et souvent, les gens, par contre, me disent qu'est-ce qu'elle dans mes livres, c'est des descriptions. Mais en réalité, c'est pas des descriptions. Je décris j'évoque des lieux, puis j'essaie d'illustrer ce qu'on ressent quand on est dans ces lieux-là. Alors, je vais parler d'un rose, je vais parler du vent, je vais parler de la couleur des montagnes, je vais parler du manque de lumière, je vais parler du vent qui souffle. On va entendre le bruit, les odeurs. Puis quand on évoque tout ça, qui existe, qui sont les choses qu'on ressent quand on est dans un endroit. Je trouve que comme lecteur, on la voit, la montagne, on la voit, la rivière, mieux que si moi, je la décris de façon minutieuse.
Ouais, c'est ça, Michel, vous avez dit le mot-clé, vous voulez évoquer au lieu de décrire. Et là, exactement, à ce moment-là, il y a toute la place à l'imaginaire qu'on laisse au lecteur.
Ben, comme pour ma part, moi, je me suis retrouvé dans le bois, dans le bout où le personnage s'en va faire un petit tour en forêt. Je me suis rappelé à quel point c'était bon de sentir l'épinette. L'eau qui coulait, les enseignements que j'avais reçus, puis comment je m'ennuie du bois.
Ben, c'est parce que quand on se retrouve dans le bois, c'est quoi les réflexions qu'on se fait? C'est ça, t'sais. Ah oui, ça sent bon l'épinette. Puis là, on entend le bruit de la rivière. Alors ça nous apaise, t'sais, puis on voit la pénombre. Puis bon. Alors, moi, je préfère dans un roman recréer ça, ces impressions-là, plutôt que de décrire la forêt avec la couleur, la hauteur des arbres, etc. C'est ma manière d'écrire à moi. Mais je trouve que, comme lecteur, je préfère ça. Donc, quand j'écris, je suis jamais loin du lecteur que je suis.
Je me demandais,
vas-y.
Si on voit quelque part comment les Premières Nations sont, puis les Autochtones comme les Inuits, sont des réfugiés dans leur propre pays. On a eu des actualités l'année dernière avec Raphaël André qui est mort dans une bécosse chimique. On sent la mort rôder dans votre roman. Est-ce que c'est ces actualités-là qui ont entre autres inspiré cette volonté-là de montrer cette histoire-là, ces histoires-là?
En bonne partie, oui, parce que je veux dire, c'est la réalité comme moi. Tu sais, je suis journaliste, puis j'ai couvert beaucoup de ces événements-là comme journaliste, puis j'ai constaté ça. Fait que une des choses que j'essaie aussi de montrer dans le roman, c'est que les lieux changent, mais c'est encore les mêmes lieux. C'est-à-dire que la montagne est encore là, le fleuve est encore là. Oui, la forêt de tours de verre et de béton a remplacé en bonne partie la forêt qu'il y avait auparavant, mais tout est encore là comme quand les Autochtones étaient là avant l'arrivée des Blancs. Puis les Autochtones sont encore là dans la ville. Les gens ne les voient pas, mais on est là, pareil. On est dans ce même lieu-là. Et même quand on est en ville, vous remarquez, j'évoque souvent aussi le vent, les arbres, le vent qui arrive du territoire, qui souffle sa montagne, qui s'engouffre dans les rues. Tout ça pour rappeler que même si c'est une ville, ça reste quand même un territoire aussi.
Il reste
même
que votre inspiration première, votre documentation première, Michel, ça demeure votre métier de journaliste encore. Hein?
Ça n'est pas des fois. Dans ce cas-là, c'est pas tellement que c'est comme un travail journalistique. C'est pour moi, faire de la recherche pour écrire un roman, ça me vient facilement parce que je fais ça depuis longtemps comme journaliste. Fait que, quand tu cherches des choses, c'est comme si j'avais été coureur automobile puis que je voulais chauffer un autobus. C'est quelque chose que j'ai fait beaucoup, donc j'ai une facilité pour le faire. La démarche n'est pas la même. Dans le journalisme, je vais chercher à mettre en valeur les faits. Dans le roman, je vais chercher à mettre en valeur ce que les personnages vivent. Et il y a une nuance qui est quand même importante. Puis l'écriture aussi va être vraiment différente de l'écriture journalistique. Puis même si les phrases sont courtes, les chapitres sont courts, ça reste que c'est pas une manière journalistique d'écrire. Moi, j'aime faire des phrases souvent courtes. De temps en temps, je vais faire des phrases un peu plus longues. Ça permet, je trouve, de donner un rythme. Puis j'aime souvent raccourcir vers la fin et les chapitres et les phrases pour donner un genre de rythme qu'on sente qu'on est porté par quelque chose.
C'est tout à fait dans la foulée d'Hemingway, Michel. Michel Jean est avec nous. On revient dans une petite pause.
Ben doks kermidak Nishto gishko Ben doci geyak Oh, 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 oh. Ashil nishto gishko
C'était Nishto Gishko de Laura Nikwe, une artiste atikamekw.
Michel Jean avec nous pour ce roman qui est vraiment un succès. Bravo pour le succès parce que c'est pas uniquement ici. Hein, Michel, ça va très bien en Europe aussi. Ravi pour vous.
Merci. Ben, je suis content parce que quand j'ai écrit, bon, tu sais, Cocom a été un gros coup de cœur. Puis il marche super bien en France, en Allemagne aussi, puis il va paraître en Espagne bientôt. Mais tu sais, quand j'écrivais Joe Jackie, je me disais, tu sais, écrire, le personnage est un itinérant. C'est pas un livre sur le monde des itinérants, c'est un livre sur les autochtones en milieu urbain. Puis il y a beaucoup de personnages qui sont pas de la rue, etc. Mais c'était quand même un défi de dire, ben, tu sais, ça va se passer dans la rue en bonne partie, l'histoire. Tu sais, c'est pas les sujets qui sont les plus sexy, là, ou les plus à la mode. Mais moi, je me laisse pas guider par ces considérations-là. Tu sais, j'essaie de raconter l'histoire que je pense qu'il faut que je raconte. Alors, de voir l'accueil jusqu'à présent, ben, je suis content, puis ça me touche aussi, parce que ça veut dire que l'intérêt des Québécois pour les questions qui touchent les Premières Nations, ben, il se maintient aussi. Ça, c'est rassurant, je trouve.
Un peu plus tôt, vous aviez parlé de votre démarche de recherche et tout ça. Contrairement à Robert, qui est un auteur, mon co-animateur, moi, je suis loin, loin, loin de pouvoir m'affirmer comme auteur. C'est quoi que ça veut dire en concret? Vous êtes allé rencontrer des personnes dans la rue, vous avez fait des entrevues pour voir comment ils vivaient. La description du voyage dans le Nord, je l'ai quasiment senti. C'est par le billet d'entrevue, le billet de lecture que vous faites ce genre de recherche-là?
Les deux, en fait. Je veux dire, comme rapporteur, l'année passée, j'ai parlé quand même quelques fois avec des gens. Ça a donné que j'ai couvert beaucoup d'affaires qui sont passées au Square Cabot. Mm-hmm. J'ai parlé avec des Inuits, j'ai parlé avec des membres des premiers peuples qui étaient là. J'ai parlé avec des gens qui travaillent avec eux. J'ai des amis qui travaillent aussi dans ce domaine-là. J'ai des amis qui m'ont parlé de personnages, comme les sœurs Napatouk. J'ai un ami à moi, Katia Bacon, qui m'a parlé de ces deux sœurs itinérantes-là, hein, qui n'ont pas de dents, puis qui sont drôles, puis qui rient tout le temps. Elles sont toutes petites, mini, etc. Puis je les ai vues une fois. Le personnage d'Élie m'est inspiré d'un itinérant dont je ne sais pas vraiment dans la vraie vie s'il a tué quelqu'un, mais dont on m'avait dit qu'il avait été banni. Je n'ai pas enquêté sur sa vie, je ne vais pas faire ça. Mais moi, on m'avait raconté qu'il était banni. Et qui est à Montréal. C'est lui qui m'a donné l'idée, même si mon Ili est différent de cette personne-là. Donc, il y a des faits comme ça autour que j'ai constatés et où parler. Mais des fois, tu sais, j'ai quand même beaucoup lu sur, par exemple, les questions des Inuits. Je trouve que c'est un enjeu important au Québec actuellement. Puis ce qui se passe dans les communautés Inuits est ignoré, alors qu'il y a un vrai drame qui est récent et qui se passe en ce moment. Mais en même temps, moi, il y a une démarche d'écrivain aussi, parce que je suis jamais allé, moi, dans le village, dans le Grand Nord, où ils sont. Et je suis allé à Pessamit depuis, mais quand j'ai écrit, j'étais jamais allé non plus au moment où j'ai écrit le roman. Je suis allé cet automne. Mais avec des images, capable de travailler à partir d'images, à partir de vidéos, à partir de Google Maps. Tu peux te promener dans le village avec Google Maps aujourd'hui, puis voir les rues, puis tu vois les paysages, puis t'en inspirer. Je veux dire, on serait capable d'écrire dans le fond d'une cale, tu sais, avec notre imagination d'un bateau. On n'est pas obligé de reproduire tout. Fait qu'il y a une partie, je m'inspire de ce que je vois, de ce que je sais, de ce que j'ai appris. Puis il y a une partie aussi que je vais créer tellement en fouillant, mais je me rends compte que le terrain autour de la Coulivic est toute de la poussière blanche, parce que c'est quand des glaciers sont passés, ils ont écrasé les coquillages dans le fond, puis ça a fait une poudre. Mais tu sais, je trouvais que l'image, la poudre blanche du paysage, était fabuleuse. Je vais jouer là-dessus quand j'écris pour créer une image. C'est pas une démarche de journaliste, c'est une démarche d'écrivain. Tu sais, ça existe, c'est là, c'est beau. Je m'en sers pour créer des images qui vont être évocatrices dans le livre. Donc, c'est un mélange des deux, un mélange de contenu puis un mélange de création et ou interprétation.
Vous aviez abordé, Michel, dans Cocoum, je me souviens, où se situait l'espoir dans la dureté humaine. Est-ce qu'on y arrive à cet espoir-là avec ce nouveau roman?
Oui, parce que, je veux dire, ça commence dans la noirceur, puis il y a beaucoup de noirceur, mais c'est comme un drap avec des trous, puis la lumière est derrière. Ce qu'on voit au travers, ce qui m'intéresse, moi, c'est la lumière qui passe au travers des trous, et non pas le noir du drap.
Oui.
Dans l'histoire de Lee Michtanapeyo, ce qui m'intéresse, moi, c'est la lumière qu'il y a dans sa vie. C'est là-dessus que le focus, en réalité. Et on passe beaucoup de temps à parler ou à voir tous ces démons. Mais ultimement, tout ça, c'est pour l'amener vers quelque chose qui est plus lumineux. Il y a de l'espoir aussi dans sa vie aussi. T'sais, il y a des personnages qui sont autour de lui qui vont l'aider. C'est Geronimo, Jimmy, Lisbeth aussi. Chacun à leur manière, tu sais. Fait que j'essaie de faire en sorte que tout soit pas noir. Parce que, comme lecteur, encore une fois, quand tout est vraiment tout noir, tu trouves qu'à un moment donné, il n'y a pas de place pour l'humanité. C'est dur de respirer. Alors, je suis un éternel optimiste. Je pense vraiment que l'humanité, l'amitié, l'amour, c'est des choses qui nous aident à passer au travers des épreuves. C'est comme ça que j'essaie de vivre, moi. J'essaie d'injecter un peu de ça dans les personnages.
Vous avez du sang autochtone qui court en vous, Michel-Jean. Est-ce qu'on peut vivre son identité, ses valeurs autochtones en ville? C'est-tu vraiment possible?
Ben oui, parce que je veux dire, on peut être en contact avec beaucoup d'Autochtones, même si on vit en ville. On peut être régulièrement en contact avec la nature aussi quand on vit en ville, parce que la nature est pas loin. Là, je vous parle, je suis assis à mon bureau puis je vois le Mont-Saint-Hilaire à côté de chez nous, où j'aime aller courir et ou marcher. Alors, on est... Moi, surtout, une personne comme moi qui n'a pas grandi dans une communauté autochtone, tu sais, j'ai été élevé à l'extérieur de ma communauté, moi. Fait que, tu sais, il y a moyen, je pense, de le vivre. Puis c'est aussi beaucoup, je dirais, comment on se sent soi et le rapport qu'on a au territoire. Dans mon cas, moi, le territoire de ma famille, il n'existe plus. Il est en dessous de l'eau. C'était comme une Atlantis. Et nous, ils ont fait un barrage, ils ont inondé les passes dangereuses. C'est de là que moi, ma famille vient. Ça existe encore dans ma tête, dans nos cœurs, puis c'est encore un rêve, c'est encore quelque chose qui nous habite, même si on n'est pas là, puis même si c'est en dessous de l'eau.
Est-ce que vous sentez le...
Dans nous, ça existe encore. Moi, c'est comme ça que je vois les choses.
Est-ce que vous sentez le poids des attentes de la communauté, d'origine de la communauté autochtone, quand vous vous mettez à écrire, là, vous êtes en tournée de promotion, les interviews et tout ça, vous devenez un porte-parole, on attend quelque chose de vous, de la part des Autochtones, maintenant?
Je me sens pas comme un porte-parole, parce que, tu sais, un porte-parole, c'est quelqu'un... C'est Joséphine Bacon, pour moi, c'est une porte-parole, tu sais. Moi, je suis juste quelqu'un qui essaie de faire sa part pour raconter les histoires, pour permettre d'abord aux Autochtones que leur histoire existe, tu sais, puis qu'on puisse lire nos histoires dans un livre, qu'on en parle, puis pour que les Autochtones, les Allochtones, puissent aussi être sensibilisés à ça s'ils aiment le livre. Alors, tu sais, je me vois, moi, comme un passeur plus que comme un porte-parole.
Quelles sont les réactions?
Je milite pas, moi. Je raconte des choses, puis j'essaie de convaincre les gens autrement.
Mais des fois, les actions, les moments nous obligent à être un peu un porte-parole ou un militant. On l'a bien vu, tout le monde en parle, quand vous avez dû replacer M. Jean Chrétien.
Oui, mais je veux dire, moi, je suis un peu coincé parce que je suis journaliste. Que, je ne peux pas non plus commencer à commenter l'actualité en donnant mon avis. C'est pas dans ma nature de le faire non plus, de toute façon. Fait que je ne me demande pas un gros sacrifice. Mais tu sais, c'est juste une réaction citoyenne. Puis je me pose la question. Puis j'ai pas voulu manquer le respect au premier ministre. Mais tu sais, j'ai juste expliqué aux gens que, dans le fond, peut-être que M. Chrétien ne comprend pas la différence entre un pensionnat où on apprend le cours classique puis un pensionnat autochtone où on essaie d'assigner les enfants. C'est le même nom, mais c'est pas le même but, puis c'est pas la même chose. De dire ça, dans le fond, c'est juste de dire une vérité.
C'est toujours intéressant, ça, l'entrevue se termine, Michel-Jean. Je me permets de vous dire, quand l'auteur est aussi sympathique que le roman, c'est bon signe.
Merci beaucoup, c'est
gentil. Qu'est-ce que tu
m'étonnes? C'est ce que m'étonne à vous deux, là.
Merci.
On va écouter Cobblestone d'O'Cara.
Vous écoutez Coué Bonjour avec Alexis Wawanalwat et Robert Blondin.
Un peu de nouvelles parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Il s'en passe à tout bout de champ et à chaque semaine. Il y a une nouvelle particulièrement triste à propos du COVID-19, encore une fois. C'est le nombre de cas qui continue de grimper en flèche au Nunavik.
Mm-hmm. Oui, on l'a vu, les Premières Nations, les peuples autochtones ont été très, 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 très précautionneux au début de la pandémie parce que, on le sait, chez les Premières Nations, on en a vécu des pandémies. On a vécu des pandémies induites volontairement, comme par Amers, comme la petite vérole ou des choses comme ça, ou d'autres pandémies qui ont fait en sorte, qui ont décimé nos populations. Puis la COVID-19, ça touche particulièrement nos aînés. Donc, quand on dit que quand un aîné meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle chez nous, nos savoirs qui sont si précieux, bien, c'est triste de voir...
Précieux et fragile.
Précieux et fragile. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place des grandes mesures de vaccination, des questions de complotisme, puis tout ça. J'en ai pas tant entendu parler de ça chez les Premières Nations. Donc, c'est ça. J'imagine qu'avec le temps, les mesures se sont amoindries un peu, parce qu'à une certaine époque, on pouvait même pas aller dans le Grand Nord si on n'avait pas d'affaires à y aller vraiment pour une urgence.
La seule cause possible, c'est qu'il y aurait moins de vaccinations dans le Nunavik? On ne sait pas vraiment pourquoi.
On ne sait pas trop, mais on sait qu'on peut quand même être malade même si on est vacciné.
Maître Wawanalwat, je fais appel à vos qualités d'avocat. Traité Robinson Huron, la Cour d'appel tranche en faveur des Premières Nations.
Oui, les traités historiques nous amènent à reconcevoir souvent la relation qu'on a entre la Couronne et les Premières Nations. Et ici, on vient souvent s'appuyer sur ces traités-là pour pouvoir affirmer des droits aujourd'hui. On a un autre exemple.
Les ententes territoriales, le nouveau ministre des Relations Couronne autochtones, le cheval de bataille de Mark Miller, il veut régler les questions territoriales, faire avancer les dossiers plus rapidement. Vas-tu y arriver, là, lui?
Ben, on l'espère. Je pense à...
Ça fait des décennies qu'on
qu'on espère beaucoup de choses. Est-ce que vraiment l'État canadien va dire, va tasser son intérêt colonial dans l'histoire? Parce qu'il faut se rappeler que si les traités avancent pas, c'est que l'État canadien n'a pas cet intérêt-là. Hein, qu'est-ce qu'on va faire des ressources? Est-ce qu'on va pouvoir partager le pouvoir adéquatement, équitablement? C'est ça la question de fond.
Pour ça, il faudrait d'abord le vouloir.
Oui, il faudrait une volonté politique, puis ça peut avancer vite dans ce temps-là. On le sait, quand il y a une volonté économique, on l'a vu avec les cris, on a eu peur qu'on bloque encore les travaux de la baie James. On a développé un traité sur la cinquième vitesse.
La conclusion de ce que tu dis là, c'est que si on n'a pas peur, on fait rien, là.
Ben, jusqu'à maintenant, ça a pas mal été ça. On n'a pas fait des traités juste sur la bonne foi et la bonne volonté.
Donc, si ça va pas assez vite, on risque de bloquer d'autres choses.
Malheureusement, on l'a vu avec les Wet'suwet'en, il a fallu ça pour que, même après Delgalmuk, un arrêt de la Cour suprême, 20 ans plus tard, où on dit la Cour suprême, non, on préconise la négociation de bonne foi, ça s'était toujours pas réalisé. Il a fallu qu'il y ait une crise ferroviaire, cause to cause, pour que ça puisse avancer puis qu'on négocie de bonne foi.
Si on pouvait donc faire ça autrement, mais c'est difficile à penser des fois. En Écosse, il se passe plein de choses à Glasgow, hein, de ce temps-ci, on entend parler. Les chefs autochtones viennent de partager le rêve d'unité autochtone. Ça te rejoint, toi, cette intention-là?
Ben, c'est toute la question de la justice climatique. Je pense au livre de Sheila Watts-Cloutier, « Le droit au froid ». C'est pour elle un droit humain de pouvoir conserver ses traditions. Puis on le sait souvent, dans le monde en ce moment, les changements climatiques, c'est qui en souffre le plus en ce moment? C'est les peuples autochtones. On peut penser aux Inuits, on peut penser aux Autochtones des montagnes qui voient leurs glaciers disparaître, on peut penser aux Autochtones comme Polynésiens qui voient les eaux montées, qui voient leur territoire s'effriter, les barrières de corail devenir se blanchir. Donc, c'est une question de justice, puis le fait que les peuples autochtones se réunissent, s'unissent, c'est sûr qu'on a une communauté d'intérêt là-dedans.
Mais Est-ce que les Autochtones pourraient jouer un rôle particulier dans pour combattre ce réchauffement de la planète?
Oui, dans les valeurs qu'on a. Je suis un fervent partisan d'un changement constitutionnel. Et j'invite tous nos auditeurs à lire « Peau rouge, masque blanc », qui est un livre...
Répète ça.
« Peau rouge, masque blanc ». C'est basé sur les travaux de Fanon qui s'appelait « Peau noire, masque
Maurice
blanc ».
Fanon.
Pas Maurice Fanon.
C'est un autre.
Un autre. Franz Fanon, un Mauritanien. Donc, c'est tout sur la dynamique de la reconnaissance entre dégel, l'esclave et le maître. Et donc, on théorise beaucoup là-dessus, mais dans ces livres-là, « Peau rouge, masque blanc », il y a un chef d'année qui dit « On n'a pas intérêt à faire survivre les peuples autochtones juste pour nous, les peuples autochtones. Nos valeurs, nos façons de vivre peuvent être aussi un remède. » À la philosophie, à la façon dont on traite la nature. Ce chef-là disait ça dans les années 70. Aujourd'hui, on est dans un mode où la philosophie libérale de propriété privée nous amène à tout le temps plus accumuler. Puis on le voit que c'est pas soutenable pour notre mère, la Terre. Donc, je pense que dans les valeurs, dans la philosophie, si on en prenait des Premières Nations, qu'on introduirait ça dans nos lois, dans notre constitution éventuellement, ben ça serait une partie de la solution pour un avenir viable.
On sent un peu ce propos dans ce dernier roman de Michel Jean, cette espèce d'espoir dans les valeurs autochtones pour des problèmes qui sont tout à fait urbains et aussi blancs, rouges, noirs, dans n'importe quelle sorte de...
Pour les humains.
Oui, exactement. Je voulais te parler d'autres choses aussi. C'était Ah oui, mais c'est les pensionnats. On continue les fouilles, là. Ça commence à commencer à Lebret, à Saskatchewan. Coudon, ça va s'arrêter quand, là?
Au Mohawk Institute, on a juste quelques dizaines de pensionnats sur les 150 environ.
Oh mon Dieu.
Qui ont été fouillés. Donc, ça fait juste commencer.
Qu'est-ce que c'est déjà un choc? Ce qu'on sait déjà, ça fait un choc. Imagine quand on va ajouter la quantité énorme de ce... C'est un génocide, il faut appeler ça par leur nom.
Oui, oui, j'ai juste bien hâte que ce terme-là arrête de faire débat, qu'on puisse l'accepter, qu'on dise le Canada est un État génocidaire, puis on s'organise pour l'arrêter. Parce que qu'est-ce que la enquête sur les femmes assassinées et disparues autochtones nous dit? C'est que ce génocide-là se poursuit encore aujourd'hui. Par omission des gouvernements, omission d'agir des gouvernements.
Merci, Alexis Wawanalawat.
Je couche un horizon trouble à la surface des usines en papier. En passant par les champs de tourbe, je m'écorche les pieds. Au loin, à l'intérieur des cabines, même le bois dit qu'elle n'en sait rien. Le ciel rouge prend sa carabine, il ne reste plus rien.
Si ce n'est pas nous aujourd'hui, ce sera qui demain? Et si on s'enfuyait d'ici, on prendrait quel chemin?
Les avions fendent le ciel en deux et les outardes font demi-tour, juste à temps pour leur dire adieu. À toute allure, je cours. à la recherche des campements. J'ai longtemps contourné les villes, plongé mes yeux dans tes rires, fuir les allers-retours.
Si ce n'est pas nous aujourd'hui, ce sera qui demain? Et si on s'enfuyait d'ici, on prendrait quel chemin?
Ce sera qui demain?
C'était l'artiste Inou Natacha Canepé Fontaine avec son titre Horizon Trouble. Natacha, qu'on connaît plus comme artiste poète, c'est aussi une artiste visuelle. Elle a fait une exposition dernièrement au Témiscamingue.
En parlant d'artiste, il travaille depuis une dizaine d'années dans le domaine de la diffusion de la culture et des arts autochtones. C'est un historien, un anthropologue, un écrivain, un dramaturge, un poète, un performeur, un commissaire en art visuel. Il s'appelle Louis Carl Picard. C'est oui, bonjour.
Quoi?
Quoi?
Hey, y a-tu d'autres qualificatifs qu'on pourrait ajouter à ça? Là?
Papa.
Oui, d'accord. Il y a un événement important qui s'en vient. C'est le 10e Salon du Livre des Premières Nations.
Oui, le 10e Salon s'en vient rapidement. Ça commence le 18 novembre, du 18 au 21, en fait, principalement à Québec. Et là, on est vraiment fébrile. On a hâte de rencontrer les gens à nouveau.
Pourquoi un salon du livre autochtone, ça pourrait pas être une partie du grand salon du livre général, non?
Ben écoutez, ça c'est une question qu'on se fait poser à chaque année, mais de moins en moins, je pense que les gens ont compris la nécessité d'avoir un événement spécialisé. Et je vous dirais que ce sont d'abord les auteurs qui le demandent, hein, d'avoir ce moment-là, un moment fort dans l'année, consacré uniquement à la littérature autochtone, parce que sinon, les titres dans les grands salons, les grands salons font de plus en plus de place aux auteurs autochtones, mais évidemment, ben c'est un peu mélangé, l'offre est tellement abondante et diverse que c'est dur de se retrouver. Le Salon du livre des Premières Nations est un salon à échelle humaine où les vraies rencontres sont possibles. D'abord, entre les auteurs autochtones eux-mêmes, hein, c'est le seul événement qu'ils ont dans l'année pour se rencontrer entre eux, discuter de leurs projets. On peut accueillir les nouveaux auteurs aussi, créer des liens. Ensuite, avec le grand public, avec les éditeurs, avec d'autres gens intéressés dans le milieu. Donc, non, c'est nécessaire. Et je vous dirais que la raison pourquoi que le Salon du livre des Premières Nations est né il y a 10 ans, c'était parce qu'il n'y avait pas de place dans les grands salons. Ouais. Et il n'y avait aucune place dans l'infrastructure littéraire québécoise, que ce soit les salons du livre, les festivals, les revues, les facultés de lettres dans les universités. Il n'y avait aucune place à nulle part pour les littératures autochtones.
Je pense à ma mère, Louis-Carl, qui, voilà 10 ans, c'était le seul endroit où elle pouvait justement aller exposer ses savoirs, aller exposer ses livres. Aujourd'hui, de plus en plus invitée, mais... Pour rien au monde, je pense que si on l'invite, elle va manquer ce salon-là.
Ben écoute, Mme Tiwi Wawanoloat nous a fait un merveilleux poster encore à nouveau cette année pour la fiche idéale. Puis, ben, t'as raison, je pense qu'il y a un lien affectif. C'est vrai pour Christine.
Moi, écoutez, là, ici, comme journaliste, je m'oppose parce que je pense qu'il y a un conflit d'intérêts entre Alexi Wawanoloat, sa mère qui fait les affiches du Salon du Livre. Il y a quelque chose qui se passe, là, quand même.
Ouais, on peut voir ça comme ça, mais je vous rassure tout de suite en vous disant que nous avons plus d'une vingtaine. Il faudrait que je recompte parce qu'on a un petit volet virtuel aussi, mais de mémoire, on a 26. On a 26 auteurs autochtones différents qui participent directement au salon. Et ça, c'est sans parler des auteurs et des artistes visuels qui ont participé à l'exposition Le Leg, qui sera présenté aussi dans le cadre du salon. Donc, on a plus d'une trentaine d'artistes autochtones qui y participent.
Louis-Carl, est-ce qu'il y a des éditeurs nombreux autochtones ou si ça, c'est pas ça?
Non, il faut pas voir le Salon du livre des Premières Nations comme une foire du livre. Le Salon du livre, comme je le disais, c'est quelque chose pour nous à échelle humaine. Donc, en plus, cette année, avec la COVID, ben, vous comprendrez que c'est difficile de... Il y a toute une réglementation en vigueur, évidemment, pour s'assurer que tout ça soit fait en toute sécurité pour tout le monde. Donc, on a différents éditeurs qui sont présents. Mais ça demeure limité encore plus cette année que les autres années, mais on a une belle collaboration avec la librairie Anénorak qui, elle, tient les livres des éditeurs qui ne peuvent pas être présents. Revenons à votre question, les éditeurs autochtones, ben, au Québec, au moment où on se parle, il y a seulement un seul éditeur autochtone, ça demeure les éditions Anénorak. Par contre, il y a de plus en plus d'éditeurs québécois et franco-canadiens qui publient de la littérature autochtone et qui le font très bien aussi. Je pense à des gens, évidemment, comme Mémoire d'Encrier ou les éditions David, Prise de parole. Même les gros joueurs, tu sais, comme Stanké, maintenant, là, embarque, là. Donc, il y a un intérêt manifeste. Et ça prouve une chose, c'est que le public est là aussi. Tu sais, c'est que le public est de plus en plus friand de nos littératures. Puis notre littérature est de plus en plus diversifiée aussi. Alors, c'est sûr, ça l'amène à un plus grand public.
Mais pourquoi le public est de plus en plus intéressé par la littérature autochtone?
Ben, c'est une excellente question. Moi, je vais vous dire, là, ça fait au-dessus de 20 ans que je travaille dans promotion et la diffusion des arts autochtones. Et j'ai commencé, à l'époque, c'était surtout avec la musique. Quand j'étais plus jeune, avec la musique autochtone contemporaine, et très tôt, j'ai réalisé quelque chose, c'est que le Québécois moyen se retrouve dans les arts autochtones. Il y a une authenticité qui le rejoint, il y a des sensibilités qui le rejoignent. Par contre, souvent, il ne le sait pas, et pour une minorité de Québécois, ils ne veulent pas le savoir. Maintenant, en musique, quand je travaillais en musique, c'était plus facile, parce que tu sais, tu entends une chanson, ça te rentre dans le corps, si tu tapes du pied, il y a bien des chances que tu aimes ça. Pour la littérature, ça exige un effort de la part du lecteur, du public, donc c'est plus dur peut-être de convaincre les gens qu'ils aiment ça, d'où l'importance d'un événement comme le Salon du livre des Premières Nations, où là, tu peux rencontrer les auteurs, tu peux les entendre par des lectures, tu peux assister à des magnifiques spectacles littéraires. Et donc, ce sont des activités découvertes. Parce qu'à la base, là, il y a cette sensibilité-là. Maintenant, à cause des enjeux, à cause que, évidemment, avec le travail que nous et d'autres ont fait au niveau de la littérature, les œuvres sont de plus en plus connues. Et à partir de ce moment-là, ben, les gens s'y retrouvent, finalement. Les gens découvrent... des univers qui leur plaisent, qui leur parlent.
Hey, Louis-Carl, on va avoir plusieurs événements. Un qui a piqué mon attention, ça va être la mise en scène de « Je suis une maudite sauvagesse », un livre fort dans la littérature autochtone.
un livre phare et qui est considéré comme plusieurs, comme le premier, comme véritablement le premier livre autochtone publié au Québec. Ouais, ça, c'est un projet, en fait, des productions Menouin-Taguan, mis en scène par Charles Bender. Donc, le texte de Anatne Capesh, qui est un livre coup de poing à l'époque, hein, d'ailleurs. Et, bon, à l'époque, quand c'était publié, à la fin des années 70, visiblement, le Québec n'était pas prêt à entendre ses vérités. Maintenant, je pense qu'on est rendu ailleurs. Le livre qui parle du colonialisme québécois et des effets directs sur sa vie à elle et surtout sur celle de ses enfants. Et ça, ben, c'est le projet à Charles et à Natacha. C'est véritablement de recréer une lecture sur scène entièrement en Inuaimun, disons-le. Là, c'est 1h10 environ, uniquement en Inuaimun, avec surtitrage en français, c'est-à-dire c'est la page du livre. C'est la traduction, parce que le livre était bilingue. La version française est sur écran. Et donc, c'est important pour nous parce qu'on fête notre 10e anniversaire. Puis pour moi, il y a un axe qui transcende, qui traverse en fait l'ensemble de la programmation. Et cet axe-là thématique cette année, c'est à la fois une rétrospective sur la littérature autochtone, le corpus depuis le tout début des années 70, mais aussi on s'interroge sur le futur, où on veut aller, quels sont les chemins pour l'avenir des littératures autochtones. Donc ce spectacle-là, un spectacle fort intéressant qui a été joué une seule fois à Montréal l'été dernier, et là nous on s'est dit non, on veut ce spectacle-là.
Le remettre en... Ouais. De l'avant. Puis on va aussi avoir une activité traditionnelle pour souligner ces 10 ans-là, le bingo littéraire.
Oui, ben écoutez, vous savez, le bingo littéraire, ça là, c'est mon bonbon. Je vais être bien honnête avec vous, c'est la seule, je l'anime, c'est ma création en 2015. En temps, j'avais testé ça en 2015 pour le Salon du Livre à l'époque. Et ça avait tellement bien fonctionné qu'on a fait une tournée au Québec et en Ontario en 2018 avec ce spectacle-là.
Ah ouais, mais c'est quoi ce bingo littéraire?
C'est une excellente question. Est-ce que c'est une game de bingo? Est-ce un spectacle littéraire? Est-ce une espèce de party improvisée? Ben, c'est tout ça à la fois. Un bingo littéraire, c'est qu'on a boulier sur scène. Les gens jouent bingo pour vrai, sauf que le boulier, il va décider qui lit quoi. On a 75 textes tirés de l'histoire de la littérature autochtone. On a 4 auteurs-lecteurs sur scène qui vont venir lire les textes. Les gens du public aussi peuvent prendre des boules et venir lire un texte, gagner des prix de participation. Et évidemment, il y a des jeux de bingo et on gagne des prix en livres autochtones, bien sûr. Alors, c'est un gros party. Honnêtement, là... C'est un peu absurde, mais c'est ça la beauté de la chose. C'est vraiment comme une performance.
Écoute, Louis Carl, il n'y a rien de plus sérieux que la folie.
Et que le bingo, je vais vous dire, parce que s'il y a quelque chose dans notre bas monde qui peut unir les Québécois et les Autochtones, c'est bien le bingo.
Vous avez parlé tout à l'heure, Louis Carl, de la solidarité qui existe entre les auteurs autochtones parce qu'ils étaient contents de se retrouver dans ce salon entre eux. Ils n'ont pas perdu parmi tous les autres auteurs qui ne sont pas autochtones. Vous avez parlé de solidarité chez les auteurs, les écrivains blancs. Solidarité, ça ressemble plus à de la compétition qu'autre chose.
Ben écoutez, je pense qu'il y a aussi... je ne dois pas être dans le milieu littéraire depuis de nombreuses années. Je pense, il y a des belles solidarités aussi chez les auteurs québécois. Là. Bien sûr qu'il y a de la compétition, parce qu'il y a un volet business. Puis, tu sais, quand on tombe au niveau des prix, des fois, et tout ça, ça peut arriver qu'il y ait de la jalousie. Mais je pense que le milieu littéraire, en général, il y a une belle solidarité. Et ça, peu importe les appartenances là, culturelles là, ou nationales. Là. Moi, en tout cas, je le vois... là. Moi, évidemment, je suis à Wendake, donc, mais je le vois dans le milieu littéraire à Québec, là, au niveau des auteurs de la région, tout ça. Moi, je pense que cette solidarité-là est un peu partout.
Mais on peut l'exercer du 18 au 21 novembre, notre invité Louis-Carl Picard-Cy. Oui, ben, bon bingo!
Ben, merci à vous!
Tiens, ouais!
Q. I'm coming from the res, the 052. Mulla boy, Kiska Biggie, a crew. Mega my pride for these big my lens. Mega my power in these big my hands. Mega my swagger in this big my man. Who's
around the res as I'm riding real low. Cousins all see cause I'm riding real slow. Windows all down, let the wind blow.
Q, where we gonna go?
Don't ask questions, come on, let's go.
Damn, Q, this shit's fire.
Damn right, cause my res right shines.
Res right shines, yes, my res right shines. Yeah, my res right shines. I take my time in between the lines. I take my time and I look real fine. Res right shines, yes, my res right shines. Yeah, my res right shines. Yeah, my res right shines. Res right shines, yes, my res right shines.
When I cruise around the res, I'm always being laughed at. You spent 30 G's, mine's barely half that. I used to have nice paint, now it's mostly rusty. Still delivering through every single crusty. From K down to Lusty, my ride is recognized. No side view, a rubber neck to check out the eyes. If your wife's on the block, you wanna try to hide her. Cause you brought me in to fucking res rider. A backseat athlete that wants more than medals. Every lady loves it when you floor the pedals. But at the car show, I played a sideline. I could only wish that my res ride shine.
Res ride shines, yes, my res ride shines. Yeah, my res ride shines. I take my time in between the lines. I take my time and I look real fine. Res ride shines, yes, my res ride shines. Yeah, my res ride shines. Yeah, my res ride shines. Res ride shines, yes, my res ride shines.
Yo, it's a 721-86 Chevy. Paint all looking like the clear on heavy. That mirrored from perfection, that life in direction. There ain't no intersection, double guessing, fuck stressing. I put that on my daughter, I'ma ride for the lesson. Pride that I'm getting, that tribe that I'm repping. With his 283, small block, big cock, yeah, you know me. Yo, Mr. Trunk full of cigarette smoke. If it ain't pride, it's hope. I swear to God, I'm gonna die in this boat. Both hands on the steering wheel reciting this note. Yeah, for my people in the body shop doing that.
Res right shines, yes, my res right shines. Yeah, my res right shines. I take my time in between the lines. I take my time and I look real fine. Res right shines, yes, my res right shines. Yeah, my res right shines. Yeah, my res right shines. Res right shines, yes, my res right shines.
With his 283, small block, big cock, yeah, you know me. With his 283, small block, big cock, yeah, you know me. With his 283, small block, big cock, yeah, you know me.
C'était l'artiste Mi'kmaq Q052 avec le titre Res Ride Shine.
Un jour, on diffusera le bingo littéraire dans cette émission qui est faite avec Alexis Wawandaloat. Bonne semaine, Robert Blondin ici. Jean-Sébastien des Libertés en Liberté, mais en Liberté à côté du nouveau Nicolas Wartman est avec nous maintenant. Bienvenue. Pierre Guérin à la recherche et Louis Garon à la coordination. La semaine prochaine.
À la semaine prochaine.